idée de mission, finalement, ça devient une boussole qui aide aussi à appuyer les choix et à donner une forme de cohérence.
Chère auditrice, cher auditeur, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Machine à Sens, votre podcast 100% entreprise à mission. Au micro, j'accueille des dirigeants d'entreprise, des managers de mission qui nous racontent pourquoi et comment ils sont devenus entreprise à mission, les actions qu'ils ont mises en place ainsi que les conséquences qu'ils perçoivent. J'invite également des experts qui viennent nous éclairer sur des enjeux sociétaux. Vous pouvez également retrouver la newsletter hebdomadaire de La Machine à Sens, un concentré d'actualité, d'analyse et de décryptage avec un très léger tropisme pour les sociétés à mission. Je m'appelle Vivien Pertuzot et j'ai le plaisir d'animer ce podcast et également la newsletter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Deck, cofondateur et dirigeant de Deck & Donoghue, marque de bière basée à Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Je voulais prendre des nouvelles de Thomas un an après notre premier échange pour savoir comment se portait l'entreprise deux ans après être passé société à mission. Alors il faut le savoir, avec Thomas, il n'y a pas beaucoup de sujets qu'on ne peut pas aborder. Donc vous le verrez dans l'épisode, on apporte des points positifs et pas mal d'axes d'amélioration également. Avec deux ans de recul, Thomas a connu pas mal de situations que je vois chez d'autres entreprises à mission. La difficulté de faire ruisseler la mission auprès des équipes, la question de renoncer à certains développements, l'appropriation progressive de la mission comme une boussole qui guide les décisions en entreprise et bien d'autres encore. Dans cet épisode, on revient ainsi sur des décisions importantes, comme le choix de ne pas proposer des bières sans alcool ou des bières en canette, mais également le développement de filières agricoles locales sur le malt ou le houblon, ou faire entrer la mission dans le processus d'onboarding, ou encore comment être à la fois un producteur d'alcool et avoir une démarche responsable. C'est un avis tout à fait personnel, mais je trouve que Deck & Donoghue atteint un niveau de maturité sur la société à mission et ses implications en interne que je trouve très inspirant pour d'autres entreprises. Se dégage ainsi de la cohérence, une volonté de progresser et un souci constant d'être responsable. Vous verrez, ça transparaît même dans son choix musical. Sans plus tarder, je laisse place à notre échange. Bonne écoute. Bonjour Thomas.
Bonjour Vivien.
Eh bien, ravi de te revoir sur La Machine à Sens, un an après ce premier entretien qu'on avait fait, mais qui était à l'écrit. Et donc depuis, le podcast a évolué, du moins il a même été créé. Et donc un an après, je viens prendre des nouvelles, savoir un petit peu comment Deck & Donoghue se porte et comment toi, en tant que dirigeant de l'entreprise aussi, tu portes cette notion d'entreprise à mission que tu portes presque chevillé au corps. Mais on y reviendra. Peut-être pour les auditeurs qui te découvrent et qui n'ont pas eu l'occasion de lire ton long entretien l'an dernier. Donc Thomas Deck, tu es alsacien d'origine, c'est important de le préciser.
C'est vrai.
Tu as fait un joli parcours universitaire et il y a près de 20 ans, tu as eu cette idée un peu étrange de faire ton mémoire sur la RSE à l'époque. Donc pas le sujet le plus populaire, mais déjà l'âme d'un entrepreneur engagé. Tu as fait tes premières armes professionnelles dans la finance, mais le projet de brasser de la bière est revenu te titiller avec Mike Donoghue et vous vous êtes lancé en 2014. Depuis, l'entreprise a bien grandi, d'un local à Montreuil, encore certains pensent que c'est à Montreuil, mais non, ça a déménagé dans un grand entrepôt à Bonneuil-sur-Marne, en bordure de l'île de France. Vous êtes près d'une vingtaine aujourd'hui, si je ne m'abuse, et tu défends l'idée de bière de saison, de bière de moment de dégustation, de bière de gastronomie, et même aujourd'hui, de plus en plus, de soft au goût assez étonnant, frais et locaux. Un peu comme ça que je l'ai défini. Le local et le bio, c'est vraiment deux éléments clés de l'aventure de Deck & Donoghue, mais je pense qu'on y reviendra. Est-ce que j'ai oublié des éléments ou est-ce que tu voudrais ajouter des choses ?
Non, ça m'a l'air très complet.
Bon, bah formidable. Commençons tout de suite avec ces deux ans, le deuxième anniversaire, très récemment, c'était à la fin du mois d'août, si je ne m'abuse. Ouais. Deuxième anniversaire du passage en société à mission de Deck & Donoghue. Avec le recul, deux ans pour beaucoup d'entreprises à mission, c'est énorme aujourd'hui. Quels sont les grands enseignements que tu tires pour l'entreprise ?
En gros, il y a à la fois beaucoup de choses qui ont changé et au final pas tant de choses que ça. Deux ans, ça passe très vite. Je pense que la principale évolution, c'est que l'idée de mission qui était très personnelle au début, elle commence vraiment à s'infuser au sein de l'équipe, et ça je pense que c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose qui prend du temps. L'autre élément, c'est, je pense que cette idée de mission, finalement, ça devient une boussole qui aide aussi à appuyer les choix et à donner une forme de cohérence, quoi. Je pense que par le passé, il y avait des choses où ça pouvait sembler être un petit peu mes marottes perso. Ah, Thomas, il aime bien aller voir des agriculteurs et réfléchir à plein de nouveaux projets. Et le but, c'est de voir qu'en fait, ça s'inscrit dans quelque chose et que dans les produits qu'on cherche à faire, en fait, c'est pas la mission, c'est pas un truc parallèle ou c'est pas un truc de Thomas quand il sait pas quoi faire, mais que ça peut vraiment être un guide et une boussole pour toute l'équipe et pour tout ce qu'on cherche à faire.
Je me souviens effectivement, quand on en avait parlé, c'était un de tes grands sujets, que la mission, c'était un peu ton truc à toi et que tu avais un peu de mal à le faire ruisseler un petit peu dans l'entreprise. Est-ce que tu vois des éléments, comment tu perçois justement cette évolution? Ça se caractérise par quoi?
En fait, on s'est posé avec l'équipe pour justement essayer de comprendre pourquoi ça se faisait pas forcément naturellement. Et en fait, tout simplement, y avait un besoin de davantage d'explications. Donc c'est vrai que sur l'année écoulée, on a essayé de structurer davantage les choses, et notamment dans le process d'intégration et d'arrivée des gens. Donc aujourd'hui, dans les formations internes qui sont proposées, dans les 3 mois de l'arrivée, il y a 1 heure, ça dépasse un petit peu, ça finit par faire 1h30, avec moi sur les thèmes de mission. Là, on vient de le faire avec l'équipe de brasseurs il y a quelques jours. Et c'est vrai qu'il y avait des choses où il me disait « Ah d'accord, ok, c'est pour ça qu'on fait ça !» Mais c'est vrai que c'est intéressant d'articuler à la fois des contraintes, parfois au quotidien pour eux, et de les mettre en perspective avec pourquoi est-ce qu'on le fait et à quoi est-ce que ça va servir, quoi. Donc finalement, prendre le temps de l'expliquer et de partager, on se rend compte que ça se fait. Et c'est vrai qu'en sortant de la réunion, je les entendais qu'ils continuaient à parler des sujets et à essayer de voir ce qu'ils pouvaient faire. Donc c'est vrai que je pense qu'on est une équipe qui a envie. Et simplement, il ne faut pas aller plus vite que la musique, donc il faut expliquer ça au fil de l'eau.
Il y a un élément que j'aimerais creuser un petit peu. Deck & Donoyou est en belle progression, ça commence à devenir une marque bien connue en Ile-de-France. Comment est-ce que tu gères justement cette gestion de l'entreprise assez forte et le déploiement de la mission?
En fait, ça ne s'oppose pas forcément, parce que l'idée, c'est que notre croissance va nous donner une caisse pour faire retentir davantage le message. Par exemple, sur les questions de filière, c'est vrai que le fait de grandir, ça nous permet de mettre en place des choses. Alors qu'avant, on était parfois limité, on avait une forme de plafond de verre, on voulait faire, mais on n'avait pas la taille critique pour pouvoir être opérant, quoi. Donc c'est pas... Je trouve pas que ce soit un facteur de complication d'intégrer la mission là, dans une dynamique de croissance, quoi.
Et est-ce que t'as rencontré, on reviendra sur les notions de filière, parce que c'était quelque chose effectivement que tu voulais développer et je sais que vous avez avancé là-dessus. Est-ce que t'as rencontré des moments où la mission t'a guidé en termes d'idées justement, alors peut-être sur les filières ou peut-être sur d'autres sujets auxquels tu t'attendais pas forcément ou qui auraient peut-être pas émergé sans la mission?
Je pense que ça peut aider à approfondir. Par exemple là, dans la création des nouvelles bières, la mission aujourd'hui, on essaie vraiment de l'utiliser comme colonne vertébrale, et donc ça va nous, on va se retrouver à avoir des idées de bière parce qu'on est allé discuter avec des producteurs qui sont pas loin de chez nous, et on va voir ce qu'ils ont. Je pense à Claire de la Fabrique Végétale où quand j'y vais, à chaque fois je regarde, elle fait des plantes médicinales, et donc quand j'y vais, j'essaie de sentir ce qu'elle a et de voir si on peut imaginer les choses, et donc on se retrouve à faire des bières avec des herbes ou des plantes ou j'avais déjà entendu le nom avant, mais je savais pas spécialement ce que c'était, quoi. Donc, et ensuite, le fait d'aller à la rencontre de gens comme elle, ça nous met en relation avec d'autres gens, et finalement, on tire des fils et on se retrouve à faire des projets qui étaient peut-être pas très, très imaginés au début.
Et est-ce qu'inversement, il y a des fois où tu t'es dit en fait ce projet là on peut pas le lancer ou si on le lance il faut qu'on le fasse bifurquer un petit peu parce qu'il est pas en adéquation avec notre mission?
Je pense notamment des opportunités commercial. Par exemple, aujourd'hui, il y a une tendance autour de la bière sans alcool. Simplement, la bière sans alcool, si on veut la produire en respectant nos principes de mission, aujourd'hui, c'est compliqué. Et donc, effectivement, bah, on préfère mettre ça en pause le temps d'avoir des approvisionnements qui puissent être en bio. Parce que si c'est de dire, on explique toute une démarche, mais ensuite, on finit par faire la bière sans alcool parce que c'est un marché en croissance et puis qu'on achète du concentré, qu'on met un petit peu d'eau et puis qu'on vient vendre ça avec des quenouilles marquées dessus, bah, c'est un petit peu dommage. Donc c'est tentant de saisir des opportunités et en même temps, bah, c'est bien de se dire est-ce que je suis dans les clous de ce que je cherche à faire, quoi. Donc c'est une forme de conscience explicite qui est utile.
Et dans le dernier rapport de mission qui est sorti il y a pas très longtemps, tu signes l'édito et tu cites Pierre Rabhi.
Oui.
Qui est notamment la sobriété heureuse. Comment est-ce que ça se caractérise au sein de Decade News, cette sobriété heureuse ? On en parle beaucoup en plus.
Bah, c'est vrai qu'on parle beaucoup de sobriété depuis le début de l'année. On met pas souvent le mot heureux à la fin, alors que je trouve que ça le rend plus plaisant. La sobriété heureuse, bah, chez nous, ça commence déjà dans le choix des recettes. Donc effectivement, c'est de se dire, on part pas d'un univers des possibles infinis. On se dit pas je peux utiliser n'importe quel ingrédient de la terre et faire de la bière avec. On part de qu'est-ce que je peux trouver en ce moment autour de chez nous. C'est une contrainte, mais au final c'est une contrainte heureuse parce que justement on va rencontrer des gens, on va découvrir des nouvelles choses. C'est pas la facilité de prendre l'ingrédient à la mode ou l'ingrédient qui va donner un goût stratosphérique à un produit. Donc il y a clairement une idée de sobriété, et en même temps, je trouve ça très valorisant quand on arrive à le faire, quoi. Après, dans les choix qu'on va faire, c'est vrai que tout ce qui est goodies, les gens sont très demandeurs de ça, et moi je me bats pour ne pas faire des décapsuleurs et pour ne pas faire des trucs dans tous les sens qui fondamentalement servent à rien. Donc par exemple des t-shirts, c'est vrai que les gens de l'équipe, les clients, les gens sont très contents d'avoir des t-shirts. Là cette année on a arrêté les t-shirts. Alors bien sûr c'était toujours coton bio, mais au final est-ce qu'on a besoin de combien de t-shirts avec marqué Decade of You on a besoin dans sa garde-robe? Donc là cette année par exemple on va faire un partenariat avec une marque de vêtements 100% française pour faire plutôt une veste de travail qui s'inscrit dans le temps long plutôt que des t-shirts très, très éphémères. Dernier élément auquel je pense, dans la bière artisanale aujourd'hui, il y a toute une mode autour de la canette. Et donc c'est quelque chose que je refuse. Parce qu'il y a un certain nombre d'arguments écologiques qui pour moi ne tiennent pas. Mais aussi parce que je trouve que la sobriété, c'est aussi ne pas multiplier les formats, les machines. On a une machine d'embouteillage. S'il y a 5% du marché qui veut des canettes, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on aille acheter une machine pour remplir des canettes, sachant que le produit est exactement le même ? Donc est-ce qu'on doit s'attacher au format ? J'essaie de me dire que non, quoi. Donc c'est d'utiliser cette idée de sobriété en voyant ce qu'on peut enlever pour se concentrer sur des choses un petit peu plus substantielles, on va dire.
D'accord. Non, c'est intéressant comme effectivement là c'est des choix qui sont quand même assez marqués, hein, parce que...
et qui ont des implications sur nos opérations, quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Si on rentre un petit peu dans la mission, et t'as déjà touché un petit peu le sujet des filières. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé l'an dernier. Et donc, un nouveau pas a été franchi, hein, si j'ai bien lu le rapport du comité de mission sur le local, avec le développement d'une filière de malt locale. Comment as-tu trouvé la solution ? Est-ce que c'est une question de volume ? Est-ce que c'est une question de bons partenaires ?
Donc effectivement, nous, notre raison d'être, c'est de créer des expériences gustatives inspirantes. Et inspirantes, on dit que c'est... porteuse de sens et créatrice de liens. Donc c'est toujours trouver l'équilibre entre le goût et le sens. Donc le goût, c'est notre point de départ, et ensuite on veut y mettre le maximum de sens possible, quoi. Donc une bière délicieuse, mais qui serait faite n'importe comment, elle n'aura pas sa place chez nous. Et en même temps, une bière qui serait parfaite, mais sur le point de vue de l'engagement, mais dont le goût serait décevant, bah, ça ne nous satisfait pas non plus, quoi. Du coup, les filières locales, c'est quelque chose qu'on a en tête depuis longtemps, mais effectivement, ça se heurtait chez nous à une complication qui est que il y a plein de gens qui font des céréales bio en Île-de-France. Ensuite, il faut passer par la case malterie, puisque la malterie, elle va transformer des céréales de l'orge en orge maltée pour nous permettre de brasser avec. Et là, il y a soit des tout petits acteurs qui font des micro-lots, mais qui vont créer beaucoup de variations pour nous d'un brassin à l'autre. Donc ça, c'est pas satisfaisant parce qu'on veut une stabilité de notre produit. Ou sinon, on a des gros acteurs, mais pour lesquels il faut arriver avec typiquement 55 tonnes de malt. On commence à jouer à 55 tonnes de malt. Donc nous, cette année, on arrive à absorber cette quantité de malt. On a pu trouver des partenaires agriculteurs très constructifs et intéressés par la démarche. Et du coup, on prend chacun un peu sur nous pour que ça fonctionne. Donc par exemple, en gros, ça représente 2 semi-remorques et demi. Et forcément, ça arrive un jour à la porte et il y a 2 semi-remorques et demi de malt. Donc ça va nous tenir pour 4 mois. Mais il faut trouver une solution de stockage. Donc les agriculteurs, ils vont stocker une partie. Nous, on va stocker au maximum du maximum du maximum pour que ça fonctionne. Et ensuite, c'était tisser une relation de confiance avec les agriculteurs pour essayer d'envisager les scénarios compliqués qui pouvaient se produire, mais ne pas tout encadrer, parce qu'effectivement, si on cherche à tout encadrer, tout contractualiser, on risque de jamais commencer, quoi. Donc c'était le fait de rencontrer des gens très constructifs et dans lequel on est très bienveillant dans la négociation. Donc c'est limite, on se retrouve à faire des négociations inversées où eux vont dire « Ah oui, mais il faut pas que ce soit trop compliqué pour toi. » Et moi, je dis « Ah, mais il faut pas que ce soit trop compliqué pour toi non plus. » Et voilà. Donc je pense qu'il y a le premier élément, c'était avoir la taille critique. Et le deuxième, c'était trouver des partenaires qui avaient la curiosité et la volonté de faire, quoi.
Et ça, justement, sur la partie volume, on peut effectivement le comprendre. Après, la partie partenariat, il faut les trouver, ces personnes. Ça s'est fait comment ?
Ça s'est fait via des rencontres au sein de réseaux en Île-de-France. Donc, on est partenaire d'un réseau qui s'appelle Agrofil, qui encourage l'agroforesterie en Île-de-France depuis une dizaine d'années. Via le réseau, j'avais rencontré Claire, qui fait des plantes médicinales à Lumigny dans le 77. Et quand je suis allé voir Claire, j'ai rencontré son mari, qui lui est céréalier. Et la première fois qu'on s'est vu, il avait des variétés. Il aime pas quand on dit des semences anciennes. Il avait des semences paysannes. Donc il fait partie d'un collectif qui cherche à conserver des semences paysannes, et donc il va semer sur des micro-lots pour garder ces semences et se dire qu'elles ont été écartées au fil du temps, mais que peut-être elles ont des propriétés gustatives ou peut-être qu'elles ont des propriétés qui vont très bien s'adapter à certains sols ou à certaines conditions. Et donc on s'est retrouvés avec... autour de la table avec 15 variétés d'orge qui avaient des formes différentes, des couleurs différentes. Et on s'est dit, ce serait cool de faire un jour une bière avec ça. Mais comme on part d'une poignée de céréales, déjà il faut attendre un an pour avoir l'équivalent de 10 poignées. Ensuite, au bout d'un an, on passe à 100. Donc on multiplie par 10 globalement d'année en année. Et ensuite, le problème, c'est que si moi je prends 3 kilos pour faire un test dans une casserole, en fait, j'ampute le programme. Donc, on se retrouve dans un truc où on se dit « Ah, peut-être que d'ici 7 ans, on pourra faire 15 litres de bière. » Donc, c'est un temps long qui est, que je trouve aussi assez fascinant dans le monde agricole. Mais c'est vrai que quand on a une brasserie qui existe depuis aujourd'hui 8 ans, se dire « dans 7 ans, je pourrais faire 15 litres de bière », ça peut sembler long. Et donc, on s'est dit « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas... faire quelque chose de plus instantané et quelque chose qui aurait aussi davantage d'impact. Parce que là, cette bière qu'on va faire dans 7 ans ou dans 10 ans, ce sera une micro-édition qui va pas toucher un large public, quoi. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus impactant à plus court terme? Et donc en voyant les contraintes de volume, en gros c'est Rémi qui est allé chercher des confrères à lui pour qu'on arrive à avoir cette taille critique. Parce que effectivement, un agriculteur aujourd'hui, s'il va semer de l'orge, il ne peut pas en ressemer sur le même espace l'année d'après. Donc en fait, ça nécessite, c'est pas juste ah, j'aimerais bien avoir un champ d'orge. C'est si on a besoin de 30 hectares d'orge cette année, en fait, de toute façon, il faut qu'il y ait au moins 4 ou 5 personnes impliquées, parce qu'il n'y a personne qui va se retrouver à mettre la moitié de ses terres sur cette culture, parce que sinon, son programme d'assolement des années à venir va être très compliqué, quoi. Donc c'est vrai que tout seul, l'idée un peu fantasmée de se dire « Ah, la brasserie, elle devrait avoir son propre houblon et sa propre orge », c'est très naïf, et en fait, presque heureusement, ça ne peut pas fonctionner, quoi. C'est vrai qu'une brasserie qui aurait son champ d'orge, en année 2, faut qu'elle commence à produire d'autres choses, quoi. Donc c'est une autre complexité. Et donc c'est vrai que c'est la rencontre avec des gens qui avaient envie de construire et de prendre le temps de construire quelque chose qui permet de mettre ça en place, quoi.
C'est intéressant parce que finalement, tout part d'une rencontre.
Ouais. Et du coup, on est dans notre mission autour de la création de liens.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Pour se dire qu'on peut mettre des visages sur les produits, les ingrédients qu'on utilise. Et c'est ensuite d'essayer d'aller transmettre ça vers nos clients, quoi.
Oui, parce que, en fait, là, ce que je trouve assez fascinant dans ce que tu racontes, c'est que finalement, c'est une rencontre où il y a des contraintes. Et donc, on essaie d'être créatif et de trouver des solutions. Et les solutions, on les trouve. En réfléchissant à plusieurs et en allant chercher...
Et en prenant sur soi.
Et en prenant sur soi aussi, en se disant, on veut le faire, on veut travailler ensemble. Et donc, chacun donne un peu du sien, quoi. Ouais. Ce qui, je trouve, est une démarche assez, assez audacieuse. Parce qu'après, il faut faire confiance aussi aux différentes personnes que tu as autour de la table. Mais qui est pleine de sens.
Merci.
La raison d'être. Alors la partie malt, ça passe plutôt pas mal. Il y a une autre filière que tu veux développer, c'est sur le houblon. Mm-hmm. Ça c'est un peu plus compliqué, même si ça commence à progresser avec une bière de récolte.
Oui, donc c'est en septembre, c'est la période de la récolte de houblon. Et donc on était cueillir du houblon à la Ouf, qui est la houblonnière francilienne, qui est une houblonnière bio qui est installée depuis 4 ans dans le 78. Donc pour l'instant on fait une bière dans l'année avec le houblon qui vient de la Ouf, avec l'idée d'en faire de plus en plus chaque année. Mais c'est des filières qui mettent du temps à se mettre en place, parce que déjà le houblon il met 3 ou 4 ans à atteindre sa pleine maturité, et ensuite effectivement une exploitation agricole elle va pas chercher à vendre à un seul client, donc nous on est un des nombreux clients de la Ouf, et donc le temps qu'il y ait davantage de houblonniers qui s'installent, on va représenter une petite partie de sa production. Et donc, on va l'utiliser avec parcimonie dans certaines bières. Quoi. Mmh.
Donc là, c'est le prochain enjeu d'essayer d'avoir une filière. Mais là, ça nécessiterait plutôt d'autres brasseurs, en fait.
D'autres houblonniers.
Houblonniers,
ouais. Pour arriver à faire augmenter la production de houblon très, très locale. Et donc, parallèlement à ça, on a rapatrié nos approvisionnements houblon, où à peu près la moitié de nos approvisionnements historiquement venaient des États-Unis, où il y avait des houblons très aromatiques, très flatteurs, donc un peu la facilité. Et on a rapatrié ça pour être aujourd'hui à 95% avec des houblons européens qui viennent d'Alsace. Je suis toujours aussi chauvin, d'Allemagne et d'Espagne, où on retrouve un climat qui se rapproche de ce qu'il y avait aux États-Unis. Donc, c'est... À chaque fois, essayer de regarder le schéma parfait à très long terme et en même temps le schéma déjà bien qu'on peut faire dès maintenant, même s'il est moins poétique ou moins romantique, quoi. Donc c'est, je pense, trouver l'équilibre entre ces deux dimensions-là qui est un des enjeux pour nous.
Ouais, bah de toute façon, après, en soi, là, c'est une question de progression. Hein. C'est tout créer de toutes pièces comme ça du jour au lendemain, surtout dans l'agriculture, c'est pas, a priori, pas évident. Hein.
Encore plus dans l'agriculture.
Encore plus dans l'agriculture. Ouais. Alors, au rang des autres rapatriements, hein, il y a aussi le verre.
Oui.
Donc là, choix d'avoir tous les verres, hein, je crois. Oui. Fait pas très loin.
À moins de 100 km de chez nous. C'est vrai que depuis le début de la brasserie, on travaillait avec un verrier qui est basé en Allemagne. Et à l'origine, c'était on aimait bien le format 50 centilitres. Et il n'y avait que ce verrier qui proposait le modèle qu'on aimait bien en 50 centilitres. Aujourd'hui, la majorité de nos ventes sont en bouteille 33 centilitres ou en bouteille 75 centilitres. Et du coup, ça nous semblait un petit peu absurde de se dire on fait venir 95% de notre verre alors qu'on pourrait l'avoir localement, on le fait venir d'Allemagne parce qu'on se dit qu'on optimise avec notre bouteille de 50 centilitres qu'on aime bien. Donc on continue à faire venir les 50 centilitres d'Allemagne. Et par contre, 95% de notre production, elle vient de l'Ain à moins de 100 km de la brasserie aujourd'hui. Quoi.
Ouais. Je ne savais même pas d'ailleurs qu'il y avait des bouteilles de 50 centilitres.
Oui, elles sont. On essaye en même temps de les réduire parce que justement, on voit la complication que ça crée et pour ne pas multiplier les formats tous azimuts. Donc mais il y a quelques irréductibles qui aiment beaucoup cette taille de bouteille, alors on ne veut pas les froisser.
Donc là, on a parlé un petit peu des succès ou des belles réussites. Il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé intéressant de souligner dans le rapport de mission, parce que en soi, le rapport de mission doit souligner aussi les difficultés rencontrées. Hein, c'est pas juste couronner les succès. Et donc là, dans les axes d'amélioration, c'est la consommation d'eau.
Oui.
Et donc là, effectivement, l'idée c'était de diminuer à, je me souviens plus la quantité exacte, mais pourquoi vous y êtes pas arrivé?
C'est une bonne question. Donc effectivement, la consommation d'eau qu'il faut pour faire de la bière est assez faramineuse. Nous, quand on a commencé, on consommait plus de 10 litres d'eau pour faire 1 litre de bière. Alors il y a un petit peu d'évaporation, et voilà, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de processus de nettoyage, de rinçage. Et il y a des phases de refroidissement, notamment de la bière, qui sont assez consommatrices d'eau. Depuis qu'on est à Bonneuil, on a réussi à réduire ça et on est aux alentours de 6 litres par litre de bière, mais ça reste très conséquent. Et on va dire les plus gros acteurs dans le monde, ils sont à 3,5.
C'est une question parce que c'est des...
Il y a une question d'économie d'échelle, ouais. Et ensuite il peut y avoir du matériel de récupération, de l'optimisation des process. Et ensuite, le dernier élément sur lequel nous on ne voudra pas aller, c'est de se dire... Effectivement, si on brasse des concentrés et qu'on dilue avec de l'eau au moment d'embouteiller, on a des cuves plus petites, donc moins d'eau pour les nettoyer, et il peut y avoir des bénéfices, mais là, on va trouver que ça empiète sur le processus de production et sur le côté artisanal qu'on cherche à promouvoir, donc ça, ce sera notre limite. Après, la raison pour laquelle on n'y est pas arrivé, je pense que tout bêtement, c'est qu'on n'était pas très clair sur... comment on allait le faire, et que c'était un petit peu, en gros, à marche forcée de se dire, c'est trop, 6, l'année prochaine, il faut qu'on soit à 5, mais sans se poser pour justement faire un vrai plan et voir comment on allait le faire. Quoi. Donc il y avait un peu l'idée de se dire, si on grandit, bon an, mal an, ça devrait nous faire la moitié du chemin, parce qu'on va optimiser nos remplissages. Mais au final, je pense que c'est un objectif qui doit être... très partagé avec l'équipe et très, c'est très concret et c'est très quotidien. Et du coup, je pense qu'on a... moi, j'ai manqué de pédagogie là-dessus et ensuite, on a manqué de temps pour justement mettre les choses en place. Quoi.
Ouais, processer un petit peu.
Ouais, parce qu'on ne peut pas juste se dire on va réduire notre consommation d'eau de 20%.
Et puis comme ça, quoi.
Voilà. Et voilà, alors non, on ne sait pas. Donc c'est aussi l'apprentissage de se dire qu'il faut davantage encadrer... encadrer les objectifs pour s'assurer d'y arriver.
L'année dernière, dans l'entretien, il y a un élément, alors c'est terrible, mais bon, un élément que j'avais pas du tout évoqué, on l'avait évoqué après l'enregistrement, c'est le fait que finalement, vous vendez quand même des boissons alcoolisées.
Oui.
Bon, Daquet de Nouilles est producteur d'alcool.
Ouais.
Mais un des objectifs, c'est la promotion d'une consommation responsable. Comment ça se traduit et comment justement vous arrivez à jongler entre le côté producteur d'alcool et consommation responsable?
Déjà par des choses très basiques qui vont être de ne pas encourager à des consommations excessives. Donc en France, on a la loi Evin qui est là pour éviter ça. Donc on essaye de la respecter, même si c'est parfois compliqué et qu'on s'y perd parfois un petit peu. Mais je pense que c'est important. Et justement, il y a plein de producteurs d'alcool qui sont vent debout contre la loi Evin. Pour le coup, c'est très cynique d'être contre la loi Evin. Donc oui, j'accepte l'idée qui est ça. Et je comprends que l'alcool en soi, il a quand même des conséquences négatives sur la santé d'un certain nombre de gens. Je pense que nous, aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est ne pas chercher l'alcool pour l'alcool. Donc on fait des bières qui sont plutôt équilibrées. Notre bière la plus forte, elle est à 6,5 degrés. On va pas chercher à faire des bières à 8, 9, 10, 12 degrés, à chercher à établir un lien entre l'intensité en alcool et une intensité gustative ou un plaisir gustatif. Mais ça, déjà, c'est parce que moi, personnellement, je prends pas un plaisir particulier à boire des bières à 12 degrés. Ensuite, je pense le travail sur les formats, il est aussi là, se dire, là, on sort une bière pour l'Oktoberfest. On fait pas des shops de 1 litre pour parce que effectivement si on boit 1 litre de bière normalement on n'est pas censé prendre la route derrière quoi. Donc c'est peut-être un détail mais sur notre photo avec notre Oktoberfest il y a un verre de 25 centilitres alors que c'est très facile d'aller dans le cliché de l'énorme shop de bière donc c'est essayer d'avoir un petit peu de mesure là-dessus. Et ensuite, je pense que... Alors, c'est peut-être très biaisé comme jugement, mais je me dis qu'aujourd'hui, avec les produits qu'on fait, les canaux de distribution qu'on a, je pense pas qu'on ait un impact aggravant sur les problématiques d'alcoolisme en France, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête et de se dire, est-ce qu'on a envie de tirer... notre rémunération du fait qu'il y ait des gens dont la vie soit profondément affectée par le produit qu'on fait, je pense que la réponse est non. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est relativement protégé de ça par... c'est bête, mais ne serait-ce que le prix de nos produits qui fait que c'est pas forcément vers ça qu'on va se tourner dans des consommations qui peuvent être excessives. Mais je pense que c'est un fil rouge qu'il faut avoir en tête quand on est producteur d'alcool. Parce que, je pense que le fait de se dire « moi, j'en profite parce que j'ai des bénéfices et vous en souffrez », ce serait pas, c'est pas conforme à l'idée d'une entreprise à mission, quoi.
Très juste. Très juste, en effet. Si on regarde le contexte actuel, on est dans un contexte de flambée des prix des matières premières, que ce soit sur les céréales, même sur le verre. J'avais lu il y a quelques mois qu'il y a des producteurs de vin qui étaient très embêtés parce qu'ils faisaient venir du verre d'Ukraine, etc. Est-ce que le fait d'être en bio et en local, alors surtout en local pour le coup, vous avantage à ce niveau-là?
Je pense. Après, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on est impacté vraiment de la même manière. Donc, par exemple, le carton, on le paye 100% plus cher qu'il y a un an. Sur le verre, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Après, ceci parce qu'on travaille, on essaie de travailler dans la durée, on a des engagements de volume, donc on arrive à bloquer les prix parce qu'on s'engage à prendre des choses sur plusieurs années. Ensuite, c'est vrai que sur le malt et sur le houblon, en gros, nous, on payait déjà beaucoup plus parce qu'on était en bio. Le bio a moins été exposé aux fluctuations. Donc effectivement, on va dire le malt bio, nous, on le paye historiquement à peu près 60 ou 70% plus cher qu'un malt conventionnel. Donc nous, pour le moment, on n'a pas été impacté par des hausses de malt. Là, on risque de se faire rattraper par les hausses de l'énergie qui vont impacter le prix du malt, mais dans des proportions moins fortes quand même, quoi. Après, là, nous, aujourd'hui, on est très impacté par les variations du prix de l'énergie, donc qui double. Nous, l'énergie, c'est à peu près 2% de notre chiffre d'affaires. Donc, mécaniquement, on a eu notre renouvellement de contrat. On a augmenté nos prix au 1er septembre pour compenser ça. Et là aussi, je trouve que l'idée de lutter contre le cynisme et de se dire que l'entreprise n'est pas nécessairement cynique, c'est de se dire je ne vais pas essayer de me faire de la marge sur la hausse du coût de l'énergie. Donc nos hausses de... Enfin, l'argument de dire mes matières premières augmentent de 100%, donc je vous augmente de... Enfin, voilà, il ne faut pas être... faut pas être naïf. On sait que les matières premières, ce n'est pas 100% de nos coûts de production. Donc on a augmenté le moins possible en se disant effectivement... Enfin, je suis un petit peu scandalisé de voir des gens qui ont des activités très peu exposées à des fluctuations et puis qui nous envoient des courriers en disant c'est plus 15% parce que
tout le monde augmente. Pourquoi pas,
hein, parce que l'Ukraine, ouais. parce que voilà. Ouais. C'est vrai que dans ces cas-là, est-ce que les gens ont augmenté les salaires de leur équipe, est-ce que c'est juste du profit pour le profit, quoi. Donc c'est là-dessus qu'il faut essayer d'être vigilant.
Alors, dernière question avant qu'on passe à l'instant musical, et c'est lié à un petit retour là sur la mission. Vous avez fini l'audit fait par un organisme tiers indépendant, donc au bout des 2 ans, puisque vous êtes à moins de 50 salariés, donc dans votre cas de figure, c'est au bout de 24 mois le premier. Qu'est-ce que tu en attendais ?
Je ne sais pas ce que j'en attendais. Je pense que c'est bien qu'il y en ait un. Parce qu'effectivement, sinon, même en rédigeant le rapport, j'ai toujours la tentation de mettre en avant ce qui va bien ou de mettre en avant ce qui va bientôt arriver et qui va être super. Donc je trouve que ça discipline un petit peu dans la présentation des choses. Et au final, j'ai trouvé que c'était un exercice intéressant parce qu'il y a eu un vrai échange et il y avait vraiment des gens qui partaient ce que vous avez écrit dans vos statuts. Qu'est-ce que vous avez ? Oui, d'accord, mais en fait, c'est pas exactement ce que vous avez dit. Ou ça, comment est-ce que vous allez le suivre ? Ou ça, désolé, je vois pas grand-chose. Donc j'ai trouvé que l'exercice était bienveillant, mais utile. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir ça, parce que pour moi, l'entreprise à mission et le fait d'inscrire des engagements dans les statuts, c'est une manière de se contraindre et de lutter contre les engagements faciles qu'on met sur le site web. Donc je trouve ça très sain qu'il y ait effectivement un contrôle derrière, quoi. Et en même temps, ça peut pas être un contrôle de 100% de notre activité et qui serait extrêmement coûteux. Donc c'est pas qu'ils vont pouvoir auditer chaque facture ou chaque chiffre, mais j'ai trouvé qu'il y avait un échange qui était constructif. Et du coup, on va publier le rapport pour justement pouvoir montrer un petit peu ce que les gens en disent et pas juste dire il y a bien eu un rapport, quoi. Parce que
et ça va vous amener à modifier des éléments sur la mission, des objectifs ou des indicateurs.
Je pense que c'est faire davantage de travail sur les indicateurs et je pense que ça va aussi justement aider à imprégner l'équipe davantage, quoi. Donc de se dire comment est-ce qu'on fait, c'est quoi le chemin pour cet objectif là, comment est-ce qu'on saura qu'on a réussi, donc c'est mettre davantage de structure là-dedans, quoi.
D'accord, très bien. Alors je te propose qu'on passe à l'instant musical.
Donc plaisir.
Je finis tous les épisodes par le coup de cœur musical de l'invité. Alors ça peut être le coup de cœur du moment, un coup de cœur un peu plus ancien. En tout cas, le choix est libre. Donc donne-moi un peu ton choix musical.
Je crois que la chanson que j'ai la plus écoutée cette année, c'est Baise le monde, chanson d'Orelsan, qui est... j'aime beaucoup le dernier album. Et en gros, Baise le monde, contrairement à son titre... c'est un peu, en gros, c'est le parcours d'un survêtement depuis le champ de coton jusqu'à son arrivée soldée sur des rayons près de chez nous. Et c'est un petit peu tout le cynisme de la chaîne d'approvisionnement, de la manière dont ça va être marketé. Et donc c'est une sorte de prise de conscience où le gars est en train de profiter de sa soirée, et en même temps il se demande pourquoi est-ce qu'il y a des crevettes qui ont été pêchées à Madagascar. Il se demande pourquoi son survêt, il a été fait par des gens qui sont peut-être enfants et qui sont peut-être pas rémunérés. Et donc cet aller-retour entre bah, allez, on profite et on s'en fout, entre guillemets, et bah, se dire mince, qu'est-ce que ça a comme implication, quoi. Donc je trouve que c'est bien dans notre thématique actuelle.
Effectivement, c'est vrai qu'Orelsan a souvent des paroles assez engagées. Eh bien, on va l'écouter. Nouveau flow, nouveau survêt.
J'ai même pas enlevé l'étiquette. Wow, c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi survêt? Il sort 12 survêt.
Un indien payé 2 euros par jour plante une graine qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qu'il expédie en Chine, où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme. Le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes. Horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et trame. Direction la Roumanie, yeah, où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits, yeah. 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah, pour mettre le logo d'un designer méga riche, yeah. Qu'écoutent des mecs qui ont payé une grande école, qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après, mais je vois ce putain de survêt, il est soldé. Je vais pouvoir flex à pas cher. Et putain, y'a un mec dans la soirée calme, même ça valait pas la peine.
Un grand merci à toi.
Merci beaucoup.
Pour cet échange et pour ces explications et comme d'habitude, ta transparence qui te caractérise. Donc un grand merci et puis bah, peut-être à l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Merci de votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode de La Machine à Sens vous aura plu. Alors j'ai une petite faveur à vous demander avant de vous laisser. Si vous avez aimé l'épisode, pourriez-vous s'il vous plaît lui donner quelques étoiles sur Apple ou sur Spotify ? Alors, sur Spotify, bizarrement, ça ne fonctionne que sur smartphone. Mais c'est vraiment hyper important pour en améliorer le référencement. Par ailleurs, si vous avez des invités que vous souhaitez me recommander, que ce soit des entreprises ou des experts, ou si vous souhaitez échanger sur la société à mission, retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur mon site internet, lamachineasens.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.